Guy de Maupassant, Chronique, Sélection 1. Une femme. Dans ce procès retentissant qui préoccupe en ce moment tous les esprits, un personnage attire particulièrement l'attention. C'est la femme Fenayrou. Le public, exaspéré, la voudrait lapider. Les hommes, raisonnables, restent confondus devant elle, la déclarant un problème moral. Enfin, beaucoup de journalistes ont affirmé simplement que c'est une hystérique, se contentant de cette expression qui sert maintenant à tout expliquer. Hystérique, madame, voilà le grand mot du jour. Êtes-vous amoureuse? Vous êtes une hystérique. Êtes-vous indifférente aux passions qui remuent vos semblables? Vous êtes une hystérique, mais une hystérique chaste. Trompez-vous votre mari. Vous êtes une hystérique, mais une hystérique sensuelle. Vous volez des coupons de soie dans un magasin? Hystérique. Vous mentez à tout propos? Hystérique. Le mensonge est même le signe caractéristique de l'hystérie. Vous êtes gourmande? Hystérique. Vous êtes nerveuse? Hystérique. Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes enfin ce que sont toutes les femmes depuis le commencement du monde. Hystérique, hystérique, vous dis-je. Nous sommes tous des hystériques depuis que le docteur Charcot, ce grand prêtre de l'hystérie, cet éleveur d'hystériques en chambre, entretient à grands frais dans son établissement modèle de la Salpêtrière un peuple de femmes nerveuses auquel il inocule la folie et dont il fait, en peu de temps, des démoniaques. Il faut être vraiment bien ordinaire, bien commun, bien raisonnable, pour qu'on ne vous classe point aujourd'hui parmi les hystériques. Les académiciens ne le sont pas, les sénateurs non plus. Tous les grands hommes le furent. Napoléon Ier l'était, pas l'autre. Marat, Robespierre, Danton l'étaient. On entend dire fréquemment de Madame Sarah Bernard, c'est une hystérique. Messieurs les médecins nous apprennent aussi que le talent est une espèce d'hystérie et qu'il provient d'une lésion cérébrale. Le génie, par conséquent, doit provenir de deux lésions voisines. C'est de l'hystérie double. La commune n'est pas autre chose qu'une crise d'hystérie de Paris. Nous voilà bien renseignés. Eh bien, à mon humble avis, la nommée Gabrielle Fenayrou n'est pas une hystérique. C'est tout simplement une femme, pareille à beaucoup d'autres. Nous restons éternellement stupéfaits devant les moindres actions des femmes qui déroutent sans cesse notre logique boiteuse. Nous sommes en général des êtres de raisonnement, même quand nous raisonnons mal ou faux. La femme est un être de sensation et de passion. Ce qu'a fait Madame Fenayrou, 1000 femmes le feraient en des occasions semblables. Aimait-elle ou n'aimait-elle pas Aubert? Peu importe, Aubert ne l'aimait plus. Elle était donc une femme abandonnée. Cela suffit. Changeante, nerveuse jusqu'à la folie, bouleversée par les plus fuyantes impressions, prête à tous les actes extrêmes, au plus grand dévouement comme au plus grand crime, la femme, pour qui l'amour est tout, amour d'un homme, amour de ses enfants, amour du vice, amour de Dieu, est capable de tout dans un dépit d'amour. Combien s'empoisonnent en une heure de fièvre inexplicable? Combien d'autres, des filles appartenant souvent aux premiers venus, poignard des vitriolises à bout portant un amant quelconque qui les abandonne. Si l'on recherchait toutes les vengeances obscures, mais plus odieuses qu'un meurtre, d'une femme délaissée, on demeurerait épouvanté à ne plus oser jamais dire une parole de tendresse. Presque toujours d'une femme dont on fut las avant qu'elle ne fût lasse de vous. La femme, dans ses colères d'amour, déjoue toutes nos suppositions. Nous ne la comprenons pas, nous ne la pressentons pas, nous ne l'expliquons jamais. Et les autres femmes demeurent surprises de choses qu'elles-mêmes auraient faites en des occasions semblables. Toutes, heureusement, ne sont point ainsi, mais elles restent nombreuses, celles dont l'âme surexcitée à la moindre impulsion est capable des plus cruelles violences. Si nous pouvions interroger les femmes qui ont aimé, qui ont souffert par l'amour, qui ont vu s'éloigner d'elles l'homme à qui elles s'étaient données, combien nous avoueraient qu'elles ont médité des vengeances aussi terribles que celles de Fénéroux contre Aubert ? Elles ne les ont point accomplies, direz-vous ? Mais pourquoi ? Parce que la femme n'est pas un être d'action. Supposez maintenant à son côté un homme, un mari outragé qui la terrasse, qui la domine, qui la pousse encore à cette vengeance rêvée. Alors, elle ne reculera plus et l'aidera jusqu'au bout en demeurant en arrière à l'heure de l'exécution. Tous les philosophes affirment que la faculté dominante de nos compagnes, c'est l'assimilation. Presque toujours, la femme d'un homme éminent semble supérieure. Dans tous les cas, elle s'imprègne de lui d'une étrange façon. Elle prend ses idées, ses théories, ses opinions. La femme n'a ni rang, ni caste, ni classe. Elle sait devenir ce qu'il faut qu'elle soit selon le milieu où elle se trouve. Il existe aujourd'hui des femmes athées, des femmes libres penseuses. Elles le sont avec violence, comme elles seraient dévotes. Celles-là ont épousé des libres penseurs. La femme devient ce que l'homme l'a fait. Qu'est-ce donc que cette armée de jeunes nihilistes russes, prêtes à tuer, prêtes à mourir, plus déterminées et plus dévouées que les hommes ? Des femmes sous l'influence directe d'une idée, d'une société secrète. Est-ce qu'une jeune fille de bonne race, assassinant en pleine rue un général qu'elle ne connaît nullement, n'est pas mille fois plus surprenante qu'une femme aidant son mari qu'elle a trompé et qu'elle redoute à tuer son amant qui la délaisse ? Martin Fénéroux me paraît moins logique, n'en déplaise à l'opinion publique. Il tua l'amant, cela s'explique. Mais n'aurait-il pas dû d'abord tuer sa femme ? Aubert était son ami, soit, mais il ne lui avait pas juré fidélité devant le maire ni devant le prêtre. En courtisant la femme du patron, il ne faisait en vérité que suivre un usage assez généralement suivi dans le commerce. On évoquait dernièrement cette espèce de subordination morale de la femme au mari pour répondre aux théories de Mademoiselle Hubertine Auclair sur les libertés politiques de la femme. Si les femmes votent, disait-on, rien ne sera changé dans le résultat final des suffrages, chaque femme devant fatalement représenter l'opinion de son maître, ou, si elle n'est pas mariée, celle de son père ou de ses frères. Ce raisonnement, cependant, ne me semble pas tout à fait juste. La femme, sensiblement inférieure à son mari, le subit, devient son reflet. Mais quand elle lui est égale, ce qui est le plus fréquent, et à plus forte raison quand elle lui est supérieure, elle échappe totalement à son influence. Alors, qu'arrive-t-il ? La femme étant, par nature, disposée aux abandons du cœur et de l'âme, à la fois, est religieuse, presque toujours. Personne ne me contredira si j'affirme que les 9/10 des femmes de France sont catholiques pratiquantes, alors qu'un tiers à peine des hommes tient aux croyances religieuses. Donc, donnez aux femmes les droits politiques, et c'est le plus sûr moyen de rétablir chez nous la monarchie, avec le pape comme souverain temporel. Ce n'est pas sans doute ce que désire Mademoiselle Hubertine Auclair. 16 août 1882. Les femmes. L'an dernier, une nouvelle désolante nous arrivait de l'Est. L'écrevisse disparaît. Ce fut une panique. L'écrevisse, cette perle des fontaines claires, cette petite bête exquise, montante, chaude au palais, ce rien du tout délicieux, cet idéal du gourmand. Idéal, car il n'y a rien dans cette carapace, rien ou presque rien. Ce n'est pas une nourriture, c'est une saveur. Et cette chair introuvable du frêle animal vous emplit la bouche d'une sensation plus forte que la viande capiteuse des gibiers. La Meuse, disait-on, se dépeuplait. Tous les ruisselets étaient vides. On chercha la cause du désastre. D'après les uns, les fabriques nombreuses empoisonnaient les eaux. D'après les autres, il fallait attribuer la raison de cette calamité à la forme du gouvernement. Et cependant, cet hiver, on mange encore des écrevisses. Il en restait donc quelques-unes. Elles se sont multipliées, que sais-je. Enfin, l'écrevisse n'est point disparue. Mais voilà qu'une nouvelle autrement affreuse nous arrive aujourd'hui d'Angleterre. La Française n'est plus. Une grave revue, une revue à raisonnement, a jeté ce cri qui fait frémir les peuples. Elle dit d'abord, cette revue, ce qu'était la femme de France, sa prédominance dans le monde, son charme, sa séduction particulière. Puis elle constate que les salons parisiens sont aujourd'hui presque vides de femmes. Et elle se lamente, elle se désole, au nom de l'Europe entière. Cette oraison funèbre de la femme française est longue, très longue, assez vraie parfois, grotesque. Avant d'y répondre, je voudrais connaître seulement l'âge de cet écrivain désespéré. Non, assurément. Il n'y a plus de femmes en France pour bien des hommes. Il en existe encore pour nous. Le publiciste anglais adjure ensuite la République de faire tous ses efforts pour rendre à l'Europe ce bijou perdu, la Parisienne. Par là même, il semble accuser le gouvernement d'avoir arrêté la fabrication de cet article spécial. A-t-il tort, a-t-il raison? Cherchons. Cependant, je ne suis pas trop inquiet. On mange encore des écrevisses. La Parisienne, qu'est-ce? Elle n'est pas belle, elle est à peine jolie. Son corps n'a rien de sculptural. Ce petit corps, souvent maigrelet, souvent corrigé par l'industrie, une femme en toque, enfin, rien d'une grecque. Mais tout son être est un langage qui parle au raffiné mieux que la grande beauté plastique. Ses yeux disent ce que tait sa bouche. Son geste, son sourire, un éclair de ses quenottes, un mouvement de ses menottes, une ondulation de sa robe quand elle se lève ou s'assied, ce qu'elle sait faire entendre, son babil charmant, méchant, perfide, sa grâce artificielle et grisante, tout ce qu'elle peut être par sa fine intelligence de sensitive vous enveloppe d'une séduction irrésistible, d'une atmosphère féminine délicieuse, pénétrante, adorable. Détaillé là, ce n'est rien, ou presque rien. C'est une saveur, un charme. Ces vraies beautés restent presque introuvables, mais elles vous emplissent le cœur d'une sensation plus troublante que les grandes statues parfaites en chair vivante. Certes, la Parisienne d'aujourd'hui n'est plus tout à fait la Parisienne d'autrefois. Il y a des cadences, mais non disparition. Est-ce la faute de la République? C'est discutable. Il y a confusion, je crois, en ce sens que le gouvernement est toujours un résultat de la société, tandis que la femme est aussi un reflet de cette société. Le monde me semble donc être le vrai coupable. Avez-vous lu le livre de messieurs Edmond et Jules de Goncourt, « La femme au XVIIIe siècle » ? C'est le plus admirable ouvrage que je connaisse où il soit traité de l'art d'être femme. J'y trouve ceci. Façon, physionomie, son de voix, regard des yeux, élégance de l'air, affectation, négligence, recherche, sa beauté, sa tournure, la femme doit tout acquérir et tout recevoir du monde. Comme elle est vraie, cette parole du grand romancier. La femme se forme et se modifie à l'image de la société où elle vit. À quelle époque, en France, a-t-elle atteint sa perfection? C'est justement pendant ce XVIIIe siècle, le siècle féminin par excellence, dont nous parle si subtilement l'écrivain. C'est alors qu'apparurent dans Paris ces êtres adorables dont on croit encore respirer le passage, ces radieuses figures, étoiles d'amour dont l'éblouissement nous est resté. Elles se sont formées dans l'air parfumé de cette époque qui fit éclore toutes les élégances. Et elles étaient bien, ces femmes, les fruits de ce XVIIIe siècle où toutes les fines qualités de notre race ont atteint leur complet épanouissement, où la grâce semble née, où l'esprit semble inventé, où tous paraissent fous d'art et de raffinements infinis. C'est le siècle de Watteau et de Boucher, le siècle de Voltaire, le siècle aussi de Diderot, le siècle de l'incroyance, de la galanterie et de l'amour, le siècle qui grise même de loin, le siècle français, le seul grand, le seul admirable siècle où notre pays reste sans rival, le siècle enchanteur et poudré. Autre temps, autre femme. Elles ont cette singulière et précieuse qualité d'être ce qu'elles doivent être dans le milieu où elles se trouvent. Douées d'un tact infiniment subtil, tout instinctif, d'une pénétration aiguë, vibrante, impressionnable, faciles aux influences, avec des aptitudes surprenantes pour deviner, dominer, serpenter, ruser, séduire. Les femmes prennent le ton d'une époque et ne le donnent pas. Elles sont cependant un peu dépaysées aujourd'hui dans ce monde d'hommes à peu près élevés qui sentent le tabac, passent au fumoir après le dîner et au cercle après le fumoir, fréquentent la bourse et dans les salons, ne lisent rien de ce qui fait charmante la vie, ignorent l'art de jeter un compliment, de baiser une main, ne savent même plus préférer parfois la soubrette à la maîtresse, soupent entre mâles et paient l'amour. Il n'y a plus de femmes, affirme-t-on. Disons plutôt, il n'y a plus d'hommes pour qui les femmes désirent être séduisantes. Mais toutes ces qualités latentes, qui, par notre faute, ne se développent plus dans l'air mondain des salons, n'existent pas moins, plus discrètes, cachées, profondes, en boutons toujours prêtes à s'ouvrir, dès qu'un peu de soleil se montre chez cette femme française, la seule femme en qui soit le génie de sa race. Car les autres savent aimer, savent se faire aimer. La Française seule sait être exquise. Elles ne sont plus en notre pays les reines triomphantes de la société, mais est-on sûr qu'elles ne soient point toujours les maîtresses invisibles des événements? Qui pourrait assurer que leurs petites mains délicates ont cessé de conduire la grosse charrette de la politique? Elles ont, je le sais, un rival terrible, l'argent. Les poètes jadis rimaient pour elles. Ils riment aujourd'hui à tant le vers. Cependant, elles sont puissantes encore, puissantes toujours. Entrons chez elles. Il est dans Paris des salons discrets souvent, des petits salons du quatrième, où viennent aboutir bien des fils. Il est des femmes d'allure modeste, qui, par trois mots signés d'un petit nom, peuvent faire sauter des préfets, déplacer des généraux, agiter comme des fourmilières les vastes ministères pleins d'employés. Il en est d'autres plus brillantes, en qui demeure, quoi qu'on dise, toute la séduction légendaire de la française. Il en est d'autres encore. Nous entrerons bientôt ensemble, si vous le voulez bien, dans quelques-uns de ces salons parisiens. 29 octobre 1881. Les femmes de lettres. On a dans le monde des lettres surtout, de certains sourires quand on parle des femmes de lettres. Ce sont des bas bleus, dit-on. Soit, mais les bas bleus sont intéressants. Beaucoup d'hommes, des philosophes éminents, condamnent en bloc toutes ces femmes, en vertu du principe général que voici. La femme n'est pas faite pour les travaux intellectuels. Ils en donnent la preuve, d'ailleurs, une preuve accablante. C'est que, depuis l'origine du monde, aucune femme n'a produit un chef-d'œuvre si court qu'il soit. Elle n'a pas, malgré des qualités accessoires remarquables, les qualités essentielles de l'esprit qui permettent d'imaginer, de raisonner, d'observer, de pondérer, de mélanger, d'établir les proportions dans les rapports absolus qui font d'une œuvre un chef-d'œuvre. Les femmes ont répondu : cela tient à un défaut d'éducation. Les femmes ne sont pas élevées comme il faut pour leur permettre de produire des œuvres d'art. Mais les philosophes ont riposté : vous étudiez plus que nous la peinture et la musique. Vous approfondissez la partie technique de ces deux arts autant qu'aucun homme. Or, citez-moi une seule de vous qui ait jamais été un grand peintre ou un grand musicien. Un illustre penseur anglais explique ainsi cette infériorité. En comparant les facultés intellectuelles des deux sexes, on ne distingue pas assez la réceptivité de la faculté créatrice. Ces deux choses sont presque incommensurables. La réceptivité peut exister, cela se présente souvent, et être très développée là où il n'y a que peu ou même point de faculté créatrice. Mais la plus grave des erreurs que l'on commet généralement en faisant ces comparaisons, c'est peut-être de négliger la limite du pouvoir mental normal. Chaque sexe est capable, sous l'influence de stimulants particuliers, de manifester des facultés ordinairement réservées à l'autre. Mais nous ne devons pas considérer les déviations amenées par ces causes comme fournissant des points de comparaison convenables. Ainsi, pour prendre un cas extrême, une excitation spéciale peut faire donner du lait aux mamelles des hommes. On connaît plusieurs cas de gynécomastie. Et on a vu, pendant des famines, de petits enfants privés de leur mère être sauvés de cette façon. Nous ne mettons pourtant cette faculté d'avoir du lait, qui doit, quand elle apparaît, s'exercer aux dépens de la force masculine, au nombre des attributs du mâle. De même, sous l'influence d'une discipline spéciale, l'intelligence féminine donnera des produits supérieurs à ceux que peut donner l'intelligence de la plupart des hommes. Mais nous ne devons pas compter cette capacité de production comme réellement féminine, si elle est aux dépens des fonctions naturelles. La seule vigueur mentale normale féminine est celle qui peut coexister avec la production et l'allaitement du nombre voulu d'enfants bien portants. Une force d'intelligence qui amènerait la disparition d'une société, si elle était générale parmi les femmes de cette société, doit être négligée dans l'estimation de la nature féminine en tant que facteur social. Donc, les vraies femmes de lettres sont des phénomènes, pardon, mesdames. Mais par cela même qu'elles sont des phénomènes, elles doivent nous sembler plus précieuses dans le bon sens du mot, plus intéressantes, plus curieuses à étudier, à connaître. Leur rareté fait leur prix, et ce serait un livre curieux, celui qui nous dirait l'histoire de l'intelligence féminine, de l'intelligence créatrice des femmes depuis Sappho jusqu'à Mademoiselle Marie Colombier. Ce qu'on pourrait en général reprocher à tous ces écrivains en robe, c'est l'absence de cette chose subtile, indéfinissable, qu'on appelle l'art, force mystérieuse que produisent certains esprits d'élite, souffle inconnu qui glisse dans les mots, harmonie insaisissable, âme de la phrase, que sais-je. On ne peut dire où réside, d'où vient, comment s'exhale ce parfum délicat des livres. Mais on sait qu'il est, on le sent, on le subit, on s'en grise. La femme, en général, quel que soit son génie, ne connaît point, ne produit point, et ne comprend guère cette chose vague et toute puissante. Le beau littéraire n'est point ce qu'elle cherche. La première des femmes écrivains, George Sand, ne semble jamais avoir été effleurée par ce mal étrange, par cette torture des artistes que travaillent l'amour, l'appétit, la rage du style. Et « style » n'est pas le mot qu'il faudrait employer. La langue ne fournit pas de terme pour exprimer cette idée de l'harmonie littéraire, de cette concordance des mots avec les choses, qui est l'art. La femme s'efforce souvent d'exprimer ses rêveries, sans avoir jamais été atteinte par la fièvre de l'adjectif, par la grande passion du verbe. Elle écrit naïvement, souvent très bien, sans recherche, avec aisance. On peut classer en deux camps les femmes auteurs. Premièrement, celles qui ont un tempérament d'écrivain. Deuxièmement, celles qui ont de la grâce et de l'esprit. Je veux citer quelques-unes de celles dont on parle le plus. La plus connue est assurément Mademoiselle Juliette Lambert. Hantée par l'amour de la Grèce, elle conçoit un livre comme un sculpteur rêve une statue. Elle croit aux dieux, aux choses antiques, aux formes pures, aux grands sentiments. Et elle produit des œuvres en qui revit quelque chose de l'autrefois païen. Belle d'une beauté puissante et saine, sans coquetterie apprise, sans maniérisme aucun, elle est bien la femme de son âme et de ses croyances. Mais un nouveau roman de cet écrivain est sur le point de paraître, Païenne. C'est alors qu'il conviendra de parler longuement du livre et de l'auteur. Voici une autre femme de lettres qui ne ressemble guère à Madame Juliette Lambert. Celle-là, c'est une Parisienne moderne, et une raffinée, et une coquette, en littérature, naturellement. Elle signait jadis des chroniques charmantes du nom de Tilda au journal La France et d'autres, non moins charmantes, du nom de Jeanne au Gil Blas. Aujourd'hui, elle est devenue Jeanne Tilda et publie un livre excellent ayant pour titre « Pour ceux d'année ». C'est un recueil de fines nouvelles, joyeuses, bien nées, un peu poivrées parfois, mais jamais trop. Cela est alerte, bien français, bien spirituel et bien galant. On sent Paris dans ce livre, on y sent le boulevard et le salon. Le style élégant garde une sorte de grâce féminine. Il sent bon comme un bouquet de corsage. Et vraiment, quelque chose de subtilement amoureux semble courir dans les pages. Pour ce damné, eh bien le titre qu'il fallait. L'auteur, Jeanne Tilda, est une grande femme à la chevelure ardente, à l'œil hardi, à la taille élégante. Elle aime le monde, on le sait. Elle aime les hommages, on le devine. Elle aime toutes les élégances et tous les raffinements de la vie. On le sent. Je prédis un grand succès à votre livre. J'ouvris un jour, par hasard, un roman intitulé « L'idiot ». C'était une œuvre singulière, naïve et puissante. L'auteur, doué remarquablement, mais inhabile, révélait un vrai tempérament d'écrivain, instinctif, sans raisonnement ni science. On sentait qu'il devait écrire d'abondance, laissant couler les phrases et les choses, simplement, sans apprêt, sans artifice. Et cette simple manière donnait parfois des effets singulièrement beaux. Cet homme voyait juste par nature. Il avait l'œil d'un observateur. Et cependant, il gâtait souvent des pages excellentes et justes par l'inexpérience de son imagination, par des inventions inutiles, par une abondance regrettable. Son pseudonyme me surprit. Paria Corrigan. Pourquoi cet étrange accouplement de mots baroques? Une femme seule pouvait avoir combiné ce nom plus bizarre qu'heureux. L'idiot est une femme, en effet. Et cette femme possède des qualités bien rares dans son sexe. Elle est douée. Elle est née avec un cerveau de romancier remarquable. Elle fera certes des livres, de vrais livres qui contiendront de la vraie vie et de vrais paysages et des sensations vraies. Si j'avais un conseil timide à lui donner, ce serait de se méfier de son imagination et de son enthousiasme, car ses qualités maîtresses sont justement les qualités contraires. L'observation, la vision juste, l'intuition nette des choses. Elle a un tempérament d'homme auquel se mêle une exaltation de femme. De toutes les femmes de lettres de France, Madame Henri Gréville est celle dont les livres atteignent le plus d'éditions. Celle-là est surtout un conteur gracieux et attendri. On la lit avec un plaisir doux et continu. Et quand on connaît un de ses livres, on prendra toujours volontiers les autres. Mesdames Georges de Perbrune, Gip, Marie Sumer, de Grandfort ont écrit aussi des œuvres pleines de qualités charmantes. Madame de Montifaux, cette victime de l'intolérance des mâles, chassée de partout, emprisonnée, honnie pour des livres qui n'auraient pas fait sourciller, signés d'un homme, a donné, certes, des preuves de talent. Mais avez-vous lu ce récit exquis, depuis longtemps célèbre d'ailleurs, qui s'appelle « Le péché de Madeleine » L'auteur, on nomme tout bas Madame Caro. Qui que vous soyez, madame, pourquoi ne faites-vous plus rien ? 24 avril 1883. Thank you. les femmes de théâtre. Quelques-unes de nos belles comédiennes ont dû protester contre l'espèce de conclusion du nouveau roman d'Edmond de Goncourt. Conclusion qui semble contenue dans cette phrase de Laura Nandel à sa maîtresse, la Faustin. Une artiste, vous n'êtes que cela, la femme incapable d'aimer. Elles ont dû s'écrier, comment, nous, incapables d'aimer? Mais nous ne faisons que ça, nous en sommes plus capables que les autres femmes. Et elles se remémoraient sans doute leur grande passion, oubliant qu'il ne faut pas confondre aimer souvent avec beaucoup aimer. Elle est au contraire terriblement vraie, la subtile analyse du maître observateur qui a fouillé ces âmes d'actrices, suivi le labyrinthe compliqué de leur tendresse et ouvert au public les coulisses de leur cœur. Et celle qu'il a choisie pour modèle est une grande artiste, une sincère, une géniale, et non la comédienne quelconque, telle que nous en voyons chaque jour en nos théâtres. Et elle aime cette Faustin, elle aime ardemment, mais elle aime en comédienne qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle reste, malgré tout, fatalement, inconsciemment, cabotine, jusque dans ses élans de passion les plus violents et les plus vrais. Et le romancier a indiqué là, avec une rare discrétion d'ailleurs, et une singulière perspicacité, la part que le métier reprend fatalement dans les passions des femmes de théâtre. Quelque capté que soit leur cœur, quelque sincère que soit leur étreinte, n'y a-t-il pas toujours un peu de mise en scène dans leurs manifestations, un peu de déclamation dans leurs ardeurs? Ne joue-t-elle pas, malgré elle, une comédie ou un drame d'amour, avec des réminiscences de pièces, des intonations apprises? Et je voudrais savoir si chaque homme sur qui tombe leur tendresse ne leur rappelle pas involontairement un personnage qu'elles ont joué, et si une partie de leur affection ne vient pas de là. Est-il bien certain qu'elles disent « je t'aime » comme les autres femmes? Qu'elles n'aient jamais de mots d'auteur, d'effets et de gestes? Et j'en appelle aux hommes qui ont connu des comédiennes, qui ont assisté à la représentation à domicile de leur tendresse. Tout en cette petite aventure de leur vie qu'on nomme amour n'a-t-il pas une odeur de planche, de coulisses, jusqu'à la rupture, qui est fatalement plus dramatique, plus déclamatoire, plus machiné qu'avec d'autres? Et comme il est vrai, cet amant, Laura Nandel, qui vit près d'elle comme un époux fou d'amour, et qu'elle adore, il n'en peut douter, et qui cependant demeure sans cesse inquiet, soupçonneux, vaguement jaloux et troublé, sentant que, même en ses bras, même éperdue de bonheur, elle joue toujours, elle fait une sorte d'adaptation à la vie réelle, des intrigues passionnées et des scènes ardentes répétées chaque soir devant la foule. Du reste, les Faustins sont rares et nos comédiennes d'aujourd'hui traitent l'amour d'une façon beaucoup plus simple et plus pratique. Exceptionnellement placées pour plaire aux hommes, pour qui elles ont un attrait puissant et particulier, sur qui elles exercent une sorte de fascination, debout sur les planches comme sur un piédestal d'où elles dominent la foule. Elles se trouvent exposées en montre comme des objets aux vitrines des marchands, offertes pour ainsi dire au désir des spectateurs. Elles apparaissent au public comme des femmes d'amour et de plaisir dont les journaux enregistrent les aventures galantes. De là à faire métier de soi, à devenir des objets de vente courante, il n'y avait pas loin. Il existe assurément des exceptions, des femmes de théâtre fort honorables, dont leurs camarades se moquent d'ailleurs, d'autres qui ne sont point vénales et que leurs camarades méprisent. Les premières sont des poseuses qui la font à la vertu, les autres sont des jobardes. Quant à celles, le plus grand nombre, qui font le commerce de galanterie, je crois vraiment qu'elles ne tarderont pas à avoir leur petite bourse du soir, où l'on verra les amoureux surenchérir à pleine voix, comme on fait chaque jour à la grande bourse. Car elles sont cotées, comme des valeurs. Elles ont des hauts et des bas, des fluctuations de cours, des dépréciations et des vogues, selon les caprices des amateurs, les mouvements de la mode et leur succès de planche. Et cela nous semble tout simple. Mais en vérité, ces marchandages d'amour de femmes qui ne sont pas des filles et qui devraient être des artistes, cette abdication du sentiment devant l'argent, du caprice devant la cote, cette réclame qui fait le théâtre pour l'alcôve, cette valeur commerciale, exploitée même quelquefois par un mari légitime au profit de la communauté. Ces agences de location des divas à la nuit ou à la semaine, ces agences où le premier Anglais millionnaire peut se présenter tranquillement un chèque à la main disant « Je voulais souper demain avec mademoiselle Machin », passent un peu les limites de la prostitution permise. Ne les verrons-nous pas bientôt, ces agences que tout le monde connaît, mais qui se cachent encore, ouvrir leurs portes sur la rue, avec un encadrement de photographie et la carte des tarifs qu'on consultera en passant, comme le dernier cours de la rente? Et n'assisterons-nous pas à des émotions publiques, pareilles à celles qui suivent la chute de la timbale, quand on apprendra que, par l'effet d'on ne sait quelle manœuvre, Madame X du Vaudeville et Mademoiselle Y du gymnase viennent en un soir de tomber à 5 louis. N'ai-je pas connu un riche Américain qui, partant pour la France, télégraphia de New York pour retenir son étoile, qu'il attendit à l'hôtel sans embarras et sans révolte. Jadis, les actrices furent des femmes à toquades, à escapades, à fantaisies. Aujourd'hui, elles rappellent les commerçants à deux boutiques qui vendent de ceci dans l'une, de cela dans l'autre. Tout dépend de la porte par où l'on rentre. Je ne veux point, bien entendu, parler de morale, car j'estime que leur situation exceptionnelle leur doit donner les mêmes privilèges qu'aux hommes. Je ne parle que de dignité féminine, ce qui est fort différent. À ce sujet, on chuchotait ces jours-ci une aventure qui serait arrivée dernièrement en Angleterre à une grande comédienne française. Un lord, un très noble lord, séduit par la grâce merveilleuse de cette femme charmante, autant que par son talent exceptionnel, l'invita chez lui, à une soirée dont sa femme faisait les honneurs. L'actrice, qui est mère, amena son fils avec elle. Et lorsque la grande dame anglaise, rigide et prude, comme toutes ses maigres compatriotes, s'avança pour la voir, elle présenta le jeune homme. « Mon fils, milady. » L'anglaise rougit d'indignation et d'un ton sec. « Je vous demande pardon, madame. Jusqu'ici, je vous avais appelée mademoiselle. Je vois que je m'étais trompée. » L'actrice ne se troubla point devant la réponse insolente. Elle sourit au contraire, et de sa voix exquise, si douce qu'elle prend tous les cœurs, elle reprit. « Oh non, milady, caprice d'amour !» L'anglaise, aussitôt, s'enfuit et ne reparut plus. L'histoire est-elle vraie? En tout cas, celle à qui on l'attribue est capable de cet esprit. Ce mot charmant n'a-t-il pas, en même temps, préservé sa dignité et affirmé les libertés que lui donne son talent? 1er février 1882. Thank you. Les servantes. Le premier soleil printanier tombe, tiède, vif et clair, sur les grandes prairies normandes. La terre sue de la verdure, s'en couvre comme d'une bave verte. Les arbres s'enveloppent de feuilles. La plaine se cache sous l'herbe haute, drue, reluisante. Et l'on voit entre les haies les filles de ferme aux jupes courtes tirer vers les pâturages les lourdes vaches dont les mamelles pendent ballottées entre leurs cuisses. Elles vont, la fille devant, la bête derrière, la fille traînant, la bête traînée, l'une pressée et l'autre lente, n'ayant l'une et l'autre au fond des yeux que les reflets verts des arbres et des herbes. À quoi pense-t-elle? À quoi songe la pauvre fille qui gagne 12 francs par mois, qui couche sur la paille d'un grenier, s'habille de 4 loques, et, sans avoir jamais lavé dans l'eau froide d'une rivière ou dans l'eau chaude d'une baignoire son corps nerveux, fort comme celui d'un homme, voudrait peut-être le parer pour plaire au charretier qui laboure là-bas au bout de la plaine, derrière la maigre charrue que traînent 2 chevaux roux. Dans son rêve animal et court, passe la boutique ambulante du marchand de rubans, de bonnets et de fichus, qui rôde sur les routes en tentant les paysannes. Elle entend le grelot de l'âne, le jappement du chien, le cri de l'homme qui annonce ses marchandises. Et l'envie veille en son pauvre cœur de brute, l'envie d'être parée par les belles matinées des dimanches pour passer devant les garçons en entrant dans l'église. Le premier soleil printanier tombe, vif et clair, sur les grands arbres des Champs-Élysées. De la place de la Concorde au rond-point, sous les marronniers en dos où piaillent les moineaux dans les feuilles, un peuple d'enfants joue sur le sable. Les tout-petits sont accroupis et maçonnent des buttes de leurs mains maladroites. D'autres, plus grands, roulent des cerceaux ou combinent des amusements, des conciliabules sérieux qui réunissent les garçons aux jambes nues et les fillettes en jupes courtes. Les parents et les bonnes assis sur les bancs sous l'ombre des verdures renaissantes rêvassent, lisent ou tricotent et regardent d'un œil distrait couler vers le bois de Boulogne le fleuve luisant des roues qui tournent. C'est un flot noir, continu, roulant, de fiacres, de landaux de Victoria et de chapeaux clairs et d'ombrelles et de livrées aux boutons brillants. Les fouets défilent innombrables, pareils aux lignes d'une armée de pêcheurs, noyés qu'emporterait le courant. Mais sous les arbres, les nourrices vont 2 par 2, un enfant au bras, d'un pas lourd de bêtes laitières, berçant l'humanité nouvelle sur l'oreiller de chair de leurs molles et grandes mamelles. Elles parlent de temps en temps, avec l'accent de la campagne lointaine, avec des patois champêtres qui font rêver aux pesantes vaches brunes couchées dans les herbages. Elles vont, les grosses femmes pleines de lait, en se balançant et se souvenant des prés, sans autres idées et sans autres désirs que ceux du pays délaissé. Presque indifférentes aux rubans de soie rouge, bleu ou rose, si larges, si longs qui traînent dans leur dos, de leur nuque à leurs pieds. Presque indifférentes aux beaux bonnets, légers comme une crème sur leur tête. Presque indifférentes à toute cette élégance dont les mères les ont parées. Les pauvres petites mères, maigres et pâles, qui habitent ces riches hôtels le long de la vaste avenue. De temps en temps, elles s'asseyent, ouvrent leurs robes et versent dans la bouche goulue d'un petit être assoiffé le flot blanc qui gonfle leur poitrine. Et le passant qui se promène croit sentir passer dans le vent une bizarre odeur de bête, d'étable humaine et de l'étage fermenté. Rue Notre-Dame de Lorette, la bobonne trotte. Elle a tout à faire et fait tout dans la maison. Elle le lave, cuisine, retape les lits, cire les chaussures, brosse les culottes et recoue les jupes, nettoie les enfants, jure au coup de sonnette, et en sait long sur les mœurs de monsieur, car elle fait tout, la bobonne. Elle trotte sur ses savates écrasées, les pieds en des bas douteux, mais la gorge ronde bien serrée dans le corsage, accrochant l'œil des passants, du célibataire qui descend au bureau, du cocher qui lance une blague, du conducteur d'omnibus suivant à pied la boîte jaune pleine de voyageurs, et qui fait le salut militaire, à la française, en voyant passer la bobonne. L'épicier l'appelle mademoiselle, le boucher galant mamselle. La laitière ajoute son petit nom, la fruitière lui dit ma fille, et la marchande des quatre saisons, plus familière, ma petite. Étourdie du matin au soir par tous les ordres qu'elle reçoit, par toutes les choses qu'elle doit faire, la tête à l'envers, la main affolée, galopant sans cesse, elle semble vivre dans un coup de vent qui l'a tout à fait écervelée. À quoi pense-t-elle? 4 sous de lait, 6 sous de fromage, 2 sous de persil, 10 sous d'huile. Il me manque 3 sous. Il me manque 3 sous. Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter? Vraiment, monsieur n'est pas propre. Si l'épicier m'embrasse encore, moi je le dirai à sa femme. Je ne veux pas d'histoire dans le quartier. Il est très bien, le cocher de monsieur Dubuisson. Il me manque 3 sous tout de même. Malheur, je serai donc jamais tranquille. Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire pour le dîner? Une soupe aux choux? Ou bien une soupe à l'oseille? V'là que je sais plus. Madame va m'attraper. C'est pas une vie, cette existence-là. Je vais compter 5 sous de lait, 8 de fromage, 3 de persil et 12 pour l'huile. Ça me fera 3 sous de bénéfice en plus des 3 que j'aurai rattrapés. Bonjour, Madame Dubuisson. Bonjour, mon enfant. Madame Dubuisson est tout simplement la cuisinière de Monsieur Dubuisson, femme légitime de ce cocher qui est très bien. Plus tard, la bobonne aspire à devenir à son tour une Madame Dubuisson, à porter majestueuse un grand panier plein de bonnes choses qui coûte très cher, en promenant par les rues un gros ventre qui semble lourd. Le pourra-t-elle? Il faut de la tête, de la sagesse, de la conduite, de la malice, de l'ordre, et bien savoir son métier de cuisinière pour arriver là. Elles se connaissent et se saluent comme des princesses, ces maréchales du fourneau. On devine, on suppose, on commente ce qu'elles gagnent, les gages et la gratte. Elles parlent haut, traitent les fournisseurs avec autorité, encombrent les trottoirs devant les boutiques, larges et lourdes, forçant la foule alerte à des circuits pour les contourner. Aussi lente, sûre, circonspecte, que la bobonne est pressée et indifférente aux achats, elle flaire le poisson, soupèse les fruits, suspecte la volaille, soupçonne le gibier, et elle marchande avec obstination, sans que leur maître y gagne un sou. Elles ont un vice caché, la bouteille ou l'amour. Quelquefois, le petit épicier rougit quand elles entrent, ou bien le marchand de vin glisse dans leur panier 1 litre de rhum qui ne figure point sur les notes. Mais on les respecte, on les considère car elles sont des puissances. On se les dispute, on se les arrache, on les sert avant tout le monde. Et elles sont dans l'œil et dans la voix un dédain de souveraine en répondant au bonjour des humbles bobonnes, ces souillons, ce déchet des gens de maison. 1889. les vieilles. Est-il au monde rien de plus adorable qu'une vieille femme? Une vieille femme qui fut jolie, coquette, séduisante, aimée, et qui sait rester femme, mais femme d'autrefois, coquette encore, mais d'une coquetterie d'aïeul. Si la jeune femme est charmante, la vieille, n'est-elle pas exquise? Et près d'elle, n'éprouve-t-on pas quelque chose d'indéfinissable, comme une sorte d'amour, non pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle fut, et une sorte de vraie tendresse, de tendresse délicate, de tendresse pleine de regrets, de tendresse galante et vénérante, raffinée, apitoyée un peu, pour cette femme qui survit dans une autre, oubliée, morte, détruite, qu'est mère des hommes, que baisèrent des lèvres affolées, pour qui l'on rêva, l'on se battit, l'on passa des nuits fiévreuses, pour qui souffrir des âmes et bâtir des cœurs. Ceux qui aiment vraiment les femmes, qui les aiment en tout, des pieds à la tête, pour cela seul qu'elles sont femmes. Ceux qui ne peuvent voir, sans frissonner, les petits cheveux frisés des nuques, le petit duvet impalpable semé sur le coin des lèvres, et le petit pli des sourires, et l'insoutenable caresse de leurs regards. Ceux qui voudraient pouvoir aimer toutes les femmes, non pas une, mais toutes, avec leurs séductions opposées, leurs grâces différentes et leurs charmes variés, doivent infailliblement adorer les vieilles. La vieille n'est plus une femme, mais elle semble être toute l'histoire de la femme. Elle devient un peu ce que sont pour nous les antiques et beaux objets qui nous rappellent toute une époque ancienne. Faite libre par ses cheveux blancs d'où la poudre s'envole, elle ose parler de tout, des choses mystérieuses et chères qui restent comme un éternel secret entre les jeunes et nous. De ce sous-entendu charmant, dont les yeux, les sourires, toute l'attitude semblent jaser quand nous nous trouvons en face d'elle, qui que nous soyons et quelle qu'elle soit. Dans la rue, dans un escalier, dans un salon, dans les champs, dans un omnibus, n'importe où, quand se croisent deux regards de jeunes gens, une subite éclosion de galanterie, un obscur désir remplit les yeux, et il semble qu'un invisible fil se trouve jeté de l'un à l'autre, en qui circule un courant d'amour. Mais c'est la chose dont on ne parle pas, ou du moins dont on ne parle guère. La vieille ose parler de tout. Elle peut le faire sans être immodeste, impudique, comme seraient les jeunes. Et c'est un charme singulier de causer longtemps, tout bas, un mot un peu voilé, mais librement, avec une femme vénérable, de toutes les ivresses des cœurs et des sens. Et elles font cela, les vieilles, avec un petit air content, désintéressé, mais encore friand, comme si elles flairaient en passant l'odeur d'un plat qu'elles adorent, mais dont elles ne peuvent plus manger. Elle parle d'amour d'un ton maternel et bienveillant. Parfois, elle jette un mot cru, une image vive, une réflexion hardie, une plaisanterie un peu pimentée, et cela prend en leur bouche une grâce poudrée de l'autre siècle. On dirait une pirouette osée où se voit un peu de jambes. Et quand elles sont coquettes, une femme doit toujours l'être, elles sentent bon, d'une odeur vieille, comme si tous les parfums dont fut baignée leur peau eussent laissé en elle un subtil arôme, une sorte d'âme des essences évaporées. Elles sentent l'iris, la poudre de Florence, d'une façon discrète et délicieuse. Souvent le désir vous vient de prendre leur vieille main blanche et douce, et tout attendrie par ces effluves d'amour passé qui semblent venir d'elle, de la baiser longtemps, longtemps, comme un hommage aux tendresses défuntes. Mais toutes les vieilles ne sont pas telles. Il en est d'abominables. Celles qui, au lieu de se faire plus bienveillantes, plus aimables, plus libres de langage et de morale, ont suri. Et, presque toujours, les femmes qui ont été peu ou moins aimées, qui ont vécu d'une vie strictement, étroitement honnête, deviennent les vieilles grincheuses, les vieilles pimbèches grondantes et hargneuses, sortes de faux eunuques femelles, gardiennes jalouses de l'honnêteté d'autrui, machines à mauvais compliments en qui fermentent des âmes de vieux gendarmes. Aussi, quand une vieille femme est vraiment séduisante, elle semble avoir pris en elle tout le charme de toutes les autres, et vous ne pouvez la connaître et aimer sans un constant et mordant regret, qu'elle ne soit plus à l'âge où vous la sauriez chérir d'une affection tout autre. Et que de gré ne lui devons-nous pas garder d'être ainsi charmante, car elle a passé par le plus épouvantable, le plus dévorant supplice que puisse souffrir une créature. Elle a vieilli. La femme est faite pour aimer, pour être aimée, et pour cela seulement. Est-il au monde un être plus puissant, plus adoré, plus obéi, plus triomphant, plus éclatant qu'une jolie femme dans l'épanouissement de sa beauté ? Tout lui appartient. Les hommes, les cœurs, les volontés. Elle règne d'une manière absolue par le seul fait de son existence, sans souci, sans travail, dans une plénitude d'orgueil et de joie. Alors, elle s'accoutume à ses hommages, comme l'enfant s'accoutume à respirer, comme le jeune oiseau s'habitue à voler. C'est la nourriture de son être. Et toujours, où qu'elle aille, qu'elle dorme ou qu'elle veille, elle porte en elle le sentiment de sa force par sa beauté, la satisfaction d'être jolie, un immense orgueil satisfait, et encore une autre indéfinissable sensation de femme qui accomplit sans cesse son rôle de charmeuse, de séductrice, de conquérante, son rôle naturel et instinctif. Puis voilà que peu à peu les hommes s'éloignent. Elle, qui était tout, n'est plus rien, mais rien qu'une vieille femme, un être fini dont la tâche humaine est achevée de par l'impitoyable loi des âges. Elle vit encore cependant, et elle peut vivre longtemps. On dit d'elle simplement « En voilà une qui fut jolie ». Alors, il faut qu'elle disparaisse ou qu'elle lutte, et qu'elle sache alors devenir, à force de grâce non plus rayonnante mais réfléchie, à force de volonté de plaire encore, de plaire toujours, cet être adorable et si rare, une vieille femme séduisante. Mais pour cela, il lui faut de l'esprit, beaucoup d'esprit, et aussi bien d'autres choses. Et comment voudrait connaître celle à qui M. Alexandre Dumas faisait dernièrement une remarquable préface pour un volume de comédie légère qui s'appelle « Le théâtre au salon ». On l'a dit, celle-là la plus charmante de toutes. Elle est certes la plus spirituelle et la plus fine, la plus adorée aussi de ses amies. Et comme à travers les scènes de ses sautillantes petites pièces, on aime cet esprit marivaudeur et subtil, littéraire à la façon des femmes de lettres, aimable toujours et captivant. Et comme on admire de loin cet ancêtre qui a su rester plus séduisante que la plupart des jeunes femmes, et qui sait être plus agréable à lire que la plupart des auteurs applaudis. Monsieur Dumas nous apprend que le nom qu'elle signe, Genevreille, n'est point celui qu'elle porte dans le monde. Il n'avait point à le dire. Nous nous en serions doutés. 25 juin 1882. politicienne. La politique, quoi qu'en pensent beaucoup de gens, convient merveilleusement à l'esprit souple des femmes. Elles y ont souvent excellé. Leurs facultés, essentiellement subjectives, s'adaptent mal aux arts dits libéraux. Et qu'on n'aille point objecter l'insuffisance de leur instruction, car elles pratiquent autant que nous la peinture et la musique. Toutes les filles de nos concierges passent par le conservatoire. Le salon, chaque année, est plein de toiles signées de petits noms féminins. Et si quelques artistes en jupons arrivent à une habileté remarquable d'exécution, aucun, cependant, n'a jamais pu franchir la limite difficile qui sépare le maître de l'amateur. Mais la politique, science de second ordre, où le flair instinctif, la rouerie naturelle, la séduction, l'habileté, les finesses et les subtilités triomphent sans cesse des raisonnements les plus sains, se prête infiniment bien au développement complet de toutes les qualités natives de la femme. Faible, mais armée de ruses pour lutter contre notre force, cuirassée de charme et de grâce pour combattre notre fermeté, insinuante pour triompher de notre logique, subtile et pratique, peu influencée par les grandes théories philosophiques, humanitaires et ronflantes, elle a su être souvent la conseillère cachée, utile et ferme de bien des grands hommes qu'elle guidait dans l'ombre de ses conseils. On pourrait même, je crois, prouver, l'histoire en main, que fort peu de politiciens ont échappé aux influences féminines. Dans notre patrie principalement, pays de la loi salique, elles ont exercé plus que partout ailleurs leur pouvoir dirigeant sur les maîtres de l'État. Celle dont je veux discrètement conter l'histoire vécut longtemps, jeune fille et jeune femme, dans une grande ville du centre de la France. Son père, vieux magistrat savant, laboura d'histoire et surtout de mémoire. Elle connut presque enfant encore, par Saint-Simon et tous les laisseurs de documents précis, les pratiques secrètes des gouvernements. Et au lieu de rêver aux amoureux masqués qui enlèvent les demoiselles au clair de lune, elle imaginait de grandes complications européennes, des difficultés inextricables où s'empêtraient tous les ministres et qu'elle parvenait seule à débrouiller par la puissance et la subtilité de ses conseils donnés en secret à l'homme d'État qu'elle avait su distinguer et qui, grâce à elle, devenait providentiel pour sa patrie. Elle lisait chaque matin les journaux, songeait à la Prusse comme on songe aux ténébreux ennemis, se préoccupait de l'Italie, surveillait l'Angleterre, avait un œil sur l'Espagne et comptait avec la Russie. Ayant épousé par force un fonctionnaire d'un esprit trouble et borné, elle vécut correctement à son côté sans qu'il soupçonnât jamais ses dedans. Peu jolie, inaperçue, elle acquit cependant une influence considérable dans son entourage grâce à ses grandes qualités d'intrigue dissimulée et d'obstination voilée. Son père mort, elle sut faire appeler son époux à Paris. Peu de temps après, il mourut aussi. Elle resta seule avec un enfant. Elle n'était pas riche, peu séduisante, pas connue. La route serait longue et difficile pour arriver à gouverner par les moyens ordinaires. Elle se sentait forte pourtant. Comment prouver sa force? Pénétrante, comment exercer sa pénétration? Elle se fit donner des places pour les séances de la chambre. Et patiemment, elle étudia tous les hommes politiques en qui la France pouvait mettre son espoir. Enfin, elle en choisit un. C'était un garçon déjà célèbre, plein d'un tempérament exubérant, d'une incontestable puissance, d'un avenir assuré. elle lui écrivit une de ces lettres à triple fond, comme les femmes savent en écrire. Elle ne cachait point son sexe, sûre de troubler l'homme, disait son admiration, puis, avec une prodigieuse habileté, elle intriguait cet esprit qu'elle avait su deviner, lui révélant ses propres pensées, indiquant ses tendances, éclairant même avec une pénétration singulière certains côtés obscurs de lui. Quel est l'homme, un peu célèbre, qui n'a point reçu ces lettres d'inconnus et qui n'a jamais été pris à leur mystère? Est-il une femme, un peu femme, souple et rusée, qui n'ait point obtenu ce qu'elle voulait par ce vieux moyen toujours bon? Ne pourrait-on pas même citer dans Paris trois ou quatre hommes de talent que des correspondances mystérieuses ont conduits jusqu'au mariage? Il fut pris comme les autres. Il répondit. Alors commença entre eux un marivaudage singulier, de politique et de galanterie mêlée. Les mots d'amour étaient remplacés par des noms de peuple, et de place en place, elle jetait habilement sur ses conseils et sur ses raisonnements un léger voile de tendresse. Lui, nature méridionale, assez facile à l'exaltation, peu habitué d'ailleurs jusque-là au succès où sa personne physique jouait un rôle, fut ému, séduit peu à peu par cet échange continu de lettres avec une femme qu'il supposait naturellement jolie, qu'il voyait exceptionnellement intelligente et qu'il avait conquise de loin par la seule puissance de son talent. Il voulut la voir, elle refusa. Cette résistance exaspéra son désir. Elle lui confessa qu'elle n'était pas jolie et plus jeune déjà. Il fut ennuyé de cet aveu. Il insista cependant et chaque semaine, il recevait une longue lettre semblable à un rapport d'ambassadeur, avec des réflexions sages et des aperçus très subtils sur la situation de l'Europe. Parfois, dans ses discours à la Chambre, dans ses allocutions en province, dans ses toasts au banquet public, il répétait textuellement des pages entières de sa correspondante anonyme. Et il s'étonnait souvent lui-même du succès qu'obtenait cette prose élégante et claire. Ces jours-là, les journaux proclamaient qu'il s'était surpassé. Le cœur pris, l'esprit enveloppé, l'intelligence séduite, il déclara enfin à son inconnue qu'il romprait toute relation si elle ne consentait point à devenir son amie visible. Elle le sentit mûr pour le cueillir. Elle consentit et lui donna un rendez-vous. Depuis longtemps déjà, elle avait loué, meublé, préparé le petit appartement qui devait servir à ses entrevues. Il y vint le cœur battant. Et quand il entra, un peu essoufflé, car il était assez gros, il trouva devant lui une femme aux traits un peu durs, mais aimable, à l'œil large, vêtue en parisienne qui désire plaire, émue aussi et les deux mains ouvertes et qui disait « Venez donc, mon ami, qu'on vous aime enfin de près. » Et tout d'un coup, ils se mirent à parler politique. Ils n'étaient point d'accord sur certains points. Ils s'expliquèrent, s'animant, se querellant presque, et s'attachant mystérieusement l'un à l'autre par mille liens ténus de l'esprit. Ils se quittèrent, se revirent, s'aimèrent d'une tendresse faite de raison, d'équilibre moral et européen, de géographie et d'accordances intellectuelles. Elle fut sa maîtresse cependant, mais si peu. Et cela dure encore, et grâce à cette ruse singulière qu'ont les femmes, à ce génie de la dissimulation, le secret de leur relation n'a point été complètement saisi. Parfois, un journal annonce qu'on l'a reconnu, lui l'homme d'État, qui ne peut sortir sans recevoir au visage tous les regards de la foule, qu'on l'a reconnue dans l'obscurité profonde d'une loge au théâtre et qu'une femme l'accompagnait. Mais quelle femme ? On cherche, on jase, on nomme des actrices, on soupçonne des grandes dames, on désigne même des danseuses. Non point, c'est la politicienne mûre, l'amie grave, la conseillère de tous les jours. Car chaque matin maintenant, il reçoit une lettre d'elle. Une lettre sont analysées, pesées, calculées, tous les événements accomplis ou possibles. Pour prouver sa puissance, elle a fait même un coup de maître. Elle l'a enlevé. Elle l'a enlevé comme jadis les gentilshommes enlevaient au couvent les jeunes filles. Et ils ont disparu, cachés quelque part dans cette Europe qui occupe toutes leurs pensées, qui remplace pour eux l'amour. Qu'ont-ils fait ? Où ont-ils été ? Nul ne le sait au juste. Les reporters fourbus sont revenus à leur rédaction sans nouvelles. Les hommes d'État se sont creusés la tête. Le mystère n'a point été percé. Où vont les amoureux qui s'enfuient ? Toujours vers la patrie poétique, la patrie radieuse de Roméo et de Juliette. Où pouvaient-ils aller, eux ? Où pouvaient-ils aller ? N'est-ce pas indubitablement vers la nation brumeuse et menaçante, vers la terre aux secrets politiques, aux éternels problèmes, la terre où médite celui qu'on appelle le chancelier de fer. 10 novembre 1881. Celle qui ose. Celle qui ose. Le titre et le volume ont de l'audace, mon cher ami. Je t'ai lu avant tout le monde avec ce plaisir que j'ai toujours à te lire. J'aime ton art subtil, coloré, odorant, complexe, qui multiplie les sensations et fait vibrer dans les profondeurs intimes de la pensée un tas de petites cordes dont on ignorait presque l'existence en soi. De tous tes volumes, celui-là est peut-être celui où l'on trouve, où l'on savoure le plus complètement tes rares et délicates qualités d'écrivain. Les choses que tu dis là-dedans m'ont fait faire des séries de réflexions. Et je veux, à propos de rien, comme à propos du livre entier, causer d'amour avec toi, puisqu'il s'agit d'amour et d'amour hardi dans celle qui ose. Tu as développé souvent, au sujet de l'amour sentimental qui n'est en réalité que l'hypocrisie de l'accouplement, des théories qui me choquent par leur raffinement même. Je trouve dans ton dernier volume beaucoup de choses qui me plaisent par leur sincérité. Ce qui n'empêche que jamais nous ne nous entendrons sur l'amour. Que cette occupation agréable tienne une grande place dans la vie des femmes, je le comprends, elles n'ont rien à faire. Je m'étonne que dans la vie d'un homme, elle puisse être autre chose qu'un passe-temps facile à varier, comme une bonne table ou ce qu'on appelle les sports. Quant à la fidélité, à la constance, quelle folie ! Jamais on ne me fera comprendre que 2 femmes ne valent pas mieux qu'une, 3 mieux que 2, et 10 mieux que 3. Qu'on revienne à l'une plus souvent qu'aux autres, c'est naturel, comme il est naturel de manger souvent un plat qu'on aime. Mais n'en garder qu'une toujours me semblerait aussi surprenant et illogique que si un amateur d'huîtres ne mangeait plus que des huîtres, à tous les repas, toute l'année. La fidélité et la constance me paraissent enlever à l'amour un charme qui est dans la fantaisie et l'imprévu. Le cœur féminin, par exemple, diffère beaucoup du nôtre. Et je comprends les raisons qu'ont les femmes d'être plus persévérantes que nous dans leur tendresse. Nous autres, nous adorons la femme. Et quand nous en choisissons une passagèrement, c'est un hommage rendu à leur race entière. On peut idolâtrer les brunes parce qu'elles sont brunes, et aussi les blondes parce qu'elles sont blondes. L'une pour ses yeux aigus qui vont au cœur, l'autre pour sa voix qui fait vibrer nos nerfs, celle-ci pour sa lèvre rouge, celle-là pour la cambrure de sa taille. Mais comme nous ne pouvons cueillir, hélas, toutes ces fleurs en même temps, la nature a mis en nous l'amour, la toquade, le caprice fou, qui nous les fait désirer à tour de rôle, augmentant ainsi la valeur de chacune à l'heure de l'affolement. Or, l'affolement chez nous devrait, me semble-t-il, être limité à la période d'attente. Le désir satisfait ayant supprimé l'inconnu enlève à l'amour sa plus grande valeur. Chaque femme conquise nous prouve une fois de plus que toutes sont à peu près pareilles entre nos bras. Les idéalistes surtout, qui courent sans cesse après l'illusion rêvée, ne devraient-ils pas être atterrés au lendemain de chaque possession? Nous autres, qui demandons moins à l'amour, nous aurions le droit de lui être plus reconnaissants du peu qu'il donne aux hommes intelligents et difficiles. La constance conduit au mariage ou à la chaîne. Rien dans la vie ne semble plus attristant et plus pénible que ces liaisons de longue durée. Le mariage supprime d'un coup, quand on le prend sérieusement, la possibilité des désirs nouveaux et toutes les tendresses à venir, la fantaisie du lendemain et tout le charme des rencontres. Il a en outre l'inconvénient odieux de condamner les époux à un déplorable ordinaire. Car quel est le mari qui oserait prendre avec sa femme les libertés délicieuses que pratiquent aussitôt les amants? Et c'est là, conviens-en, le plus grand prix de l'amour, l'audace des baisers. En amour, il faut oser, oser, sans cesse. Nous aurions bien peu de maîtresses agréables si nous n'étions pas plus audacieux que les maris dans nos caresses, si nous nous contentions de la plate, monotone et vulgaire habitude des nuits conjugales. La femme rêve toujours, elle rêve de ce qu'elle ignore, de ce qu'elle soupçonne, de ce qu'elle devine. Après le premier étonnement de la première étreinte, elle se reprend à rêver. Elle a lu, elle lit. À tout instant, des phrases au sens obscur, des plaisanteries chuchotées, des mots inconnus entendus par hasard, lui révèlent l'existence de choses qu'elle ne connaît point. Si d'aventure elle pose une question à son mari, il prend aussitôt un air sévère et répond « Ces choses-là ne te regardent pas ». Or, elle trouve que ces choses la regardent tout autant que les autres femmes. Quelles choses d'ailleurs? Il en existe donc des choses mystérieuses, honteuses et bonnes sans doute, puisqu'on en parle tout bas avec un air excité. Les filles, paraît-il, tiennent leurs amants au moyen de pratiques obscènes et puissantes. Quant au mari, qui les connaît bien, ces choses, il n'ose pas les révéler à sa femme dans le mystère du tête-à-tête nocturne, parce qu'une femme épousée, c'est différent d'une maîtresse, sacrebleu, et parce qu'un homme doit respecter sa femme, qui est ou qui sera la mère de ses enfants. Alors, comme il ne veut pas renoncer aux choses qu'il n'ose point faire légitimement, il va chez quelque impur et s'en donne. Mais la femme commence à se tenir des raisonnements d'un bon sens simple et net. On ne vit pas deux fois. La vie est courte. Une femme mariée à 20 ans est mûre à 30 et avancée à 40. Or, si on ne fait rien, si on ne connaît rien, si on ne jouit de rien avant cette limite, ce sera fini pour toujours. Les joies conjugales sont épuisées, elle en est lasse, écœurée. Alors, un amant? Pourquoi pas? Ces choses, celles qu'on ose dans l'adultère, ont peut-être un charme si grand. Une fois la pensée, le désir entré en sa tête, la chute est proche, très proche. Elle ose enfin. Mais doucement, peu à peu, elle a des réserves, des limites. Ceci, oui, cela, non. Ces distinctions, une fois le premier pas franchi, sont surprenantes et grotesques, mais générales. Il semblerait qu'à partir du moment où une femme s'est décidée à expérimenter l'amour, l'amour défendu, radiné, inventif, elle devrait toujours demander davantage, toujours vouloir du nouveau, toujours chercher, toujours attendre des baisers différents, plus aigus. Eh bien non. La morale, morale étrange et mal placée, reprend ses droits. Te figures-tu un assassin qui jugerait plus coupable de tuer un homme avec un couteau qu'avec un pistolet? Elle ne les ose pas toutes les choses charmantes qui rendent la vie moins morne. Moi, je voudrais, et ce serait de la bonne pornographie, je voudrais qu'un poète, un vrai poète, les chantât audacieusement, un jour en des vers hardis et passionnés, ces choses honteuses qui font rougir les imbéciles. Il ne faudrait là ni gros mots, ni polissonnerie, ni sous-entendus, mais une suite de petits poèmes simples et francs, bien sincères. Te rappelles-tu certains vers que nous savourions parfois? Des vers réputés abominables, mais qui sont doux comme des caresses? Tu viens de faire en prose quelque chose dans ce genre. Laisse crier les sots et continue. Je te serre cordialement les mains. 1883.